Aujourd'hui, Angela Cosea, je te demande de rêver pour moi. Tu as déjà rêvé pour moi il y a quelques années, en 2002, il y a bientôt 5 ans. Je pense que c'est tout à fait presque jour pour jour il y a 5 ans. Tu m'avais envoyé un cahier de rêve où tu retraçais beaucoup des rêves que tu avais faits la nuit. Et ce cahier, tu me l'as envoyé, je ne sais plus alors si c'est avant la mort ou après la mort de ton père, mais tu écrivais dans l'anticipation de cette mort-là. Donc ce cahier, bien sûr, je l'ai gardé et aujourd'hui, je te le redonne pour le reprendre très certainement, mais je te le passe et je te demande de lire un passage, un de tes rêves de l'époque. Et de voir d'abord si tu t'en rappelles et ce que tu aurais à me dire et voir le temps qui a passé. J'écoute ton rêve.
Le rêve que nous avons choisi pour le moment s'appelle Maison dilapidée. Et voilà, c'est comme ça. Je commence. Shirley MacLaine devait rester chez nous pour la nuit, alors que c'est le dernier dimanche de mon congé sabbatique et que la maison est pas mal dilapidée. Dilapidată, en roumain, sera un mot qui vient de lapis. Pierre, comme si la maison, peut-être celle de ma grand-mère, avait été stoned. Quelle peut être cette référence au Moyen-Orient, Moyen-Âge? Elle a des cils retournés, mais dans mon rêve, je ne l'ai pas reconnue au début, précisément parce qu'elle n'avait pas de mascara. Sans fard, on ne vous voit vraiment pas comme vous êtes. Hier soir, j'ai dit à Catherine de mettre du fard, le 7, et sortir dans le monde. Cela vaut pour moi aussi, sinon surtout, car c'est moi qui n'en mets plus. Pour revenir à la maison qu'il faut arranger pour la visite, il faut dire que j'ai assez de faire et de défaire des lits. Dans ce rêve, c'est après Greg que je devais faire la chambre. En réponse à ma question l'autre jour, comment se fait-il que je ne me rêve pas ivre? Réponse dans Stoned. Ce n'est pas moi, c'est la maison elle-même dont je dois m'occuper, que je dois restaurer. Ce qui est dire que la maison dilapidée, c'est moi. Voilà.
Le temps a passé et la première chose que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que tu crois que tu pourrais faire le même rêve aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais en arriver à cette maison dilapidée, c'est moi?
Oh mon Dieu, c'est une grande question. La maison dilapidée, on peut toujours y revenir. Il faut d'ailleurs se méfier et avoir peur parce que une maison dilapidée, elle vient avec chaque mort. Donc chaque fois que on vit la mort de quelqu'un de très proche, nous devenons une maison dilapidée. Il arrive que cela vienne de me. Je viens de passer par une autre sorte d'état pareil récemment. Mais cette maison dont je parlais là, dans ce rêve-là, comme tu l'as dit peut-être, c'était à l'occasion de la mort de mon père. Maintenant, tout juste de ces jours-ci, c'est ma maison moi-même à l'occasion de la mort de mon chien. Et puis, comme Dieu voudra, oui, cela peut se répéter.
Et comment faire est-ce qu'on peut restaurer cette maison? Est-ce que le temps Est-ce que le temps a t'a permis de la retaper cette maison, ou est-ce que à chaque fois que la mort d'un proche a lieu, est-ce que quelque chose de enfin la maison à chaque fois est complètement détruite et ou te rappelle qu'elle a déjà été détruite ou te rappelle combien elle est détruite alors que le reste du temps tu vivrais dans l'illusion que la maison tient debout.
Pas mal en pièces, ma maison. Mais enfin, je veux pas tomber dans une sorte d'ambivalence, même si je dois l'être du jour au jour. Ce qui m'est arrivé d'habitude a été au niveau pratique que j'ai effectivement changé de maison. À l'occasion de ma mort. Et puis que j'ai recommencé un processus de reconstruction de la maison où je vivais, tout en essayant de me trouver, de me définir cette autre place, de définir cette autre place pour moi et de me retrouver là-dedans. En compagnie de cette mort-là, on aurait l'impression que j'essaie de éviter le lieu où la mort a eu lieu, mais ce n'est pas tout à fait le cas. J'amène mes morts avec moi dans la nouvelle maison et je leur fais une nouvelle place. Disons que je pense que je ne vis pas et j'essaie de ne pas vivre dans les lieux exacts, dans les lieux où j'ai vécu auprès de ces êtres, mais que j'amène ces êtres-là morts dans un autre lieu où nous recommençons quelque chose. Il paraît jusqu'à ce que un autre déménagement sera en ordre.
Tu as quitté la Roumanie il y a de cela, je dirais, dans mon souvenir, 25 ans. Est-ce que je me trompe sur le chiffre?
27.
27, bon, tu vois, le temps passe. Et ces morts que tu as amenés à travers l'Atlantique, à travers bon, le monde, et que tu as gardé avec toi lors de tous tes déménagements, et Dieu sait qu'il y en a eu parce que je t'ai suivi depuis maintenant beaucoup d'années, 23 maintenant, je crois bientôt, à travers bon, tes pérégrinations, ton chemin de croix, je pense aussi à travers l'Amérique. Ces morts-là, est-ce que quelle place tu leur fais dans tes rêves? Comme, parce qu'ils puisqu'ils t'habitent, puisqu'ils habitent avec toi, quelle place ont-ils dans tes rêves? T'apparaissent-ils souvent? Je pense, bon, tu as vécu dans les dernières années beaucoup de deuil, à ta mère aussi, qui est morte, puis ton père, et puis bon, la liste serait longue, mais disons, comment sont-ils là ou ne sont-ils pas là dans tes rêves?
Ils sont là, certainement, et s'ils ne viennent pas, cela est pour moi une raison d'inquiétude. Donc, non, ils sont là fréquemment. Et ce qui arrive maintenant est que, en fait, peut-être paradoxalement, je vais dire ça comme ça, c'est juste une association, puisque je suis en analyse depuis quelques années. En fait, les rêves prennent un peu moins de place maintenant dans ma vie qu'avant, parce que ce que je faisais avant, comme tu l'as montré au début, et que J'écrivais mes rêves très régulièrement. Donc, j'ai des cahiers de rêves. C'était mon apprentissage de l'écriture et du rêve à la fois. Maintenant, parce que je suis en analyse, je ne les écris plus aussi souvent. J'en parle. Et donc, mes parents sont là, mes grands-parents aussi. Enfin, et bien sûr, la liste est longue parce que la plupart des gens qui faisaient la grande famille que j'ai connue quand j'étais enfant sont de l'autre côté. Mais ils m'apparaissent souvent, ils m'apparaissent directement ou indirectement, comme on dirait. Et je leur fais autant confiance qu'au début. Enfin, je vais m'expliquer un peu. C'est que dans les premières années après la mort d'une de ces personnes ou êtres, on a un rapport un peu spécial. C'est mon idée, un rapport privilégié avec eux. Le rapport change à travers le temps et il faut faire attention à ces changements-là. Donc, certainement, j'ai un rapport un peu différent à eux, surtout parce que le groupe qu'ils forment de l'autre côté est un peu différent de comment c'était. Comme, par exemple, quand ma mère est morte, elle tenait la place essentielle, puis les autres étaient plus ou moins importants. Maintenant, les rôles deviennent un peu égaux. Il y a comme une sorte de mélange, c'est comme un groupe, une équipe. Donc, je veux dire que c'est comme un personnage multiple, tu vois, un peu à la Deleuze. Donc, ce n'est plus tellement la subjectivité que je leur accordais, enfin, ou qu'ils me permettaient de saisir quand leur mort était récente, mais c'est juste une plus grande image de ce que la mort est, du rôle que chacun prend sur cette scène. C'est un peu comme une scène que ça se présente d'habitude. Je sais que je ne suis pas très claire, mais j'essaie de traduire quelque chose que je vis comme ça, oui, comme le rapport à une scène.
Ils sont devenus les morts, ils sont devenus ils ont perdu leur nom, ils sont devenus ceux de l'autre côté.
Oui, non, ils n'ont pas perdu leur nom, mais ils sont dans une grande fraternité, oui.
Ah.
Ce qui peut être rassurant, si tu veux, dans le sens où ce qui m'inquiète d'habitude au moment de la mort, du passage des gens que j'aime et qu'ils vont se retrouver seuls et perdus, de l'autre côté, je m'inquiète pour eux, bien sûr, mais c'est naturel, c'est inévitable. Plus le temps passe, plus je comprends que leur fraternité se reformule là-bas et que dans un sens, ils ont moins besoin de mon inquiétude. Et moi aussi, je peux donc réfléchir un peu avec moins de souffrance à à leurs conditions. C'est un peu comme ça.
C'est comme si j'entends dans ce que tu dis depuis tout à l'heure que d'abord tu t'inquiètes moins des morts, donc que peut-être que tu t'occupes plus de. Pour reprendre le rêve du début où tu parlais de Shirley MacLaine, que tu ne les reconnaissais pas parce qu'elle n'avait pas de mascara, donc peut-être que tu t'occupes plus de toi que d'eux maintenant. Peut-être qu'il y aurait de ça quand même un peu que les morts t'apportent moins de soucis qu'ils ne t'en apportaient. Et puis aussi, J'ai entendu tout à l'heure, mais j'oublie pourquoi, que il me semblait que maintenant il y a oui une espèce de possibilité pour toi de moins prendre sur toi ton fardeau, que tu laisses fardeau parce qu'il y a peut-être le mot phare dedans, tiens, mais que quelque part tu laisses aux autres, à ceux qui ne sont plus la charge de prendre soin les uns des autres. Et même, oui, je pensais, je me souviens maintenant pourquoi je dis ça. Parce que tu as dit, je n'écris plus mes rêves, maintenant je les dis en analyse. Et c'est comme si, bon, il y a quelque chose quand même d'une. Bon, tu as un endroit où tu peux. Bon, je ne vais pas le dire. Oui, je vais le dire un peu en exagérant, te débarrasser de ça, qu'il y a quelque chose de moins lourd. Tu n'as plus besoin de l'écrire, de l'envoyer, que je te le ressorte 5 ans après. Il y a quand même un lieu pour toi. Où tu peux, bon, je ne sais pas comment, quels sont les mots qu'il pourrait dire, mais tu peux te décharger de ces, de cette pierre que tu roules, hein, et qui redescend tout le temps et qui a été ta vie. Donc j'ai quand même l'impression, en t'écoutant et puis aussi parce que je t'écoute à d'autres moments, que il y a eu alors, disons, une domestication. Mais disons, oui, avec l'amour fraternité, mais bon, tu as dit une domestication de tes morts et une domestication de ta souffrance, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de morts.
Mais il y a eu une domestication de ma souffrance au moment où j'ai pu écrire ce livre, qui a été le fruit de. Non, pas le livre de rêve, c'est Les interruptions définitives. Ça a été après peut-être 2 ans d'analyse. Écrire certaines choses, je n'ai pas pu écrire tout comme parce que bon, je vais dire des choses, la chose comme ça. Bien sûr qu'il y a dans les rêves quelque chose qui ne peut pas être dit ou écrit, qui est trop horrible. Bon, mais ça c'est connu, n'est-ce pas? Ces choses-là, même dans mes cahiers de rêves, ça ne paraissait pas tout à fait comme ça, parce que la langue opère cette domestication du rêve. Dès que tu l'écris, même si c'est très, très, ça peut être très fort, quelque chose est enlevé à l'horreur du rêve, à ce qui peut être l'horreur du rêve. Un pas de plus a été l'écriture de ce livre, où c'était comme si j'avais payé une sorte de douane. Et je me suis dit, mais voilà, de ces choses-là que j'ai déjà dites, parfaitement, et comme je les ai pu dire, je peux me libérer quelque peu pour me faire une force, parce que moi je sais qu'il y a encore des choses qui m'attendent, n'est-ce pas? Enfin, il est possible que non, mais il est possible que oui. Et donc, j'ai plus. Et je suis au point, peut-être que ça a à voir avec l'âge aussi. Quand on a 50 ans, on regarde en arrière, on dit ce qui a été très important, mais ce qui sera peut-être aussi difficile, même si autrement difficile que la jeunesse, et il faut se préparer. Donc je suis dans cet état d'esprit-là, où je me dis que il faut être prête à tout. Et ce que je veux dire est que lorsqu'on est jeune, on est prêt à toutes sortes de bonheurs qu'on ne voyait pas venir, non? Alors quand on n'est plus si jeune, il faut être prêt à toutes sortes de malheurs qu'on ne voyait pas venir, qu'on voyait dans les livres, qu'on a vus chez les autres, mais on verrait pas pour nous. Alors, d'une certaine façon, oui, la domestication a en fait quelque peu à voir pour moi avec le fait de devenir plus forte pour un avenir que j'ai du mal à voir dans une lumière très optimiste. Mais bon, c'est comme ça que je te réponds.
Oui, ben, je crois que j'ai employé le mot domestication d'abord parce que il y avait l'animal domestique Félix, ton chien qui est mort récemment, et je crois que c'est très important pour toi les animaux domestiques. Je pense que c'est peut-être même plus important que les animaux sauvages parce que c'est eux qui nous accompagnent tous les jours dans la vie. Mais aussi peut-être domestique, j'ai pensé, parce que tu es quelqu'un justement de la maison sur laquelle on a commencé cette discussion, et je pense que justement il y a quelque chose pour toi de très rassurant, même si la maison est éventrée ou dilapidée, il y a quelque chose de très rassurant dans l'idée de la maison. Et bien justement, et peut-être d'autant plus que, et là je vais enchaîner sur ton livre, que tu n'es, bon, je vais, oui. Tu n'es pas chez toi, non pas parce que le Canada ou l'Ontario n'est pas, c'est pas parce que c'est pas des terres d'accueil, elles sont tout à fait accueillantes, mais voilà, que tu as dû quitter ton et que tu as bon et que tu es parti définitivement. D'ailleurs, tu dédies ton livre Interruption définitive à ceux qui sont partis pour toujours, qui ne retourneront pas, et souvent à la blague, et sérieusement, je t'ai demandé de retourner en Roumanie et même peut-être d'aller, bon, avec un prétexte, un colloque ou quelque chose comme ça, quelque chose d'anodin et de bien banal. Et jamais tu n'as consenti à aller, tu m'as plutôt toujours regardé terrifiée en me montrant que je ne savais pas ce que je disais. Mais donc tu n'es pas retourné chez toi et pourtant. Tu étais chez toi parce que j'ai lu ton livre. Et moi, ce qui m'a étonnée en lisant ton livre, c'est que tu avais un lieu où tu étais dans une certaine, un certain bonheur avec le lieu, même si le communisme vous empêchait de vivre. Mais en même temps, c'était là une familiarité extraordinaire. Moi, je n'ai pas eu une enfance comme la tienne. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas habité les lieux comme ça. Bon, pour des raisons différentes, parce que mes parents n'ont pas ce rapport-là, ou ils ont amené une errance qui est autre. Mais donc, ce qui m'a fascinée dans ton livre, beaucoup de choses m'ont fascinée, mais là particulièrement, c'est cette capacité de quitter l'espace le plus familier, l'espace qui était quand même où il y avait un rapport à la campagne. J'ai été très étonnée de voir tout ton rapport à la campagne, même si tu m'en avais parlé quand même. Il y avait un rapport à la terre, il y avait un rapport à la ville. Je te vois dans le tramway ou dans l'autobus à Bucarest, tu arpentes cette ville, tu marches là, tu es là chez toi. Tu es chez toi en Roumanie, tu étais chez toi, tu vois, je le dis au présent. Mais. Donc moi, j'ai été étonnée par ça, de cette capacité de quitter que tu as eue, de cette capacité aussi d'avoir eu un lieu, hein, parce que c'est pas rien d'avoir eu un lieu. Et je me dis, oui, alors tu pourras répondre là-dessus, mais je vais dire aussi, pourquoi tu n'as pas pu écrire ce livre avant? C'est-à-dire, tu l'écris, il paraît, tu as 51 ans, tu aurais pu. Bon, parce que tu es une femme dans les mots, dans la littérature, bon, tu aurais pu l'écrire avant, tu aurais pu, mais ce n'est pas ça qui s'est écrit. Il a fallu tout un chemin. Bon, alors j'aimerais entendre ça, et puis peut-être aussi que tu puisses si tu as envie, me parler de chez soi.
Et non, absolument. Je sais pas, je connais pas la réponse à cette question, pourquoi je n'ai pas pu écrire ça avant, mais je pense qu'elle reste dans ses cahiers de rêves. Je peux dire que mes cahiers de rêve m'ont empêché d'écrire autre chose que mes rêves. Et pour de nombreuses années, parce que je crois que j'ai commencé à écrire mes rêves au moment où je faisais ma thèse de doctorat. Donc, c'est dans les années 84. Et ça a duré jusqu'en 2002. Donc, tu vois, ça a pris longtemps. Et moi, je regarde ça comme ça d'une façon un peu pratique, de nouveau, comme un apprentissage de quelque chose. Je ne sais pas de quoi. Peut-être que moi je peux dire souvent de la langue, mais qui est ma langue. Ça veut dire, quand on écrit ses rêves, on est obligé à se soumettre à sa propre langue, quelle qu'elle soit, qui est donnée dans les rêves et qu'il faut comme traduire. Bon, donc c'est toujours une traduction, bien sûr. Mais je ne suis pas sûre. Enfin, je te raconte ça comme ça. C'est un peu l'idée que j'ai que pendant toutes ces années-là, je cherchais une langue. Alors, puis il y a eu, bien sûr, il y a eu la mort de ma mère, puis 8 ans plus tard, la mort de mon père, l'analyse. Et finalement, j'ai pu un peu renoncer à l'écriture des rêves. J'en fais un peu encore, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est plus. Parce que c'était une discipline, quand même, pour moi. Et c'était un abri aussi. Je me réveillais le matin, pour la première chose que je faisais, le plus souvent, parce que c'est un exercice, je rêvais beaucoup. J'écrivais ça et j'allais mieux. J'avais déjà fait quelque chose, tu vois. Et au moment où j'ai accompli cet exercice, disons que je n'ai pas renoncé, mais peut-être que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis je me suis mise à faire ce petit livre qui n'a pas pris longtemps à être fait. Je crois que peut-être ça a pris très longtemps. Justement, je ne l'ai pas écrit, lui, le petit livre, mais j'ai écrit tout le. Enfin, j'ai écrit la suite parce que si tu sais que dans le cahier de rêves que je t'ai envoyé, ce sont les rêves que j'ai faits après la mort de ma mère. Donc, c'est 8 ans entre la mort de ma mère et la mort de mon père. Donc, c'est la suite du livre qui est dans ces rêves-là. Donc, la temporalité est un peu, est un peu compliquée ici. Maintenant, si tu me demandes quel est le rapport entre cela et. Bon, je peux répondre vite. La mort de ma mère a été telle qu'elle a montré, en fait, et ce n'est pas contenu dans mon livre sur le fait de quitter la Roumanie, je dis il apparaît qu'il y a une raison pour laquelle on a quitté. Mais bon, et ce n'est pas évident qu'est-ce que elle serait. Maintenant, au point où je suis dans ma vie, mais ça peut changer, ça aura été pour que ma mère ait cette mort très tragique qu'elle a eue. Donc, c'était à partir de ce lieu-là que je pouvais retourner en arrière. Et même maintenant que je suis guérie de cette tragédie jusqu'à un certain point, tu vois. Donc, c'est pourquoi c'est une temporalité différente parce que. Peut-être parce que j'avais besoin de voir qu'est-ce que je faisais ici. Et en fait, le tragique de cette mort a été tel que cela m'a vraiment donné un lieu. si tu veux. Bon, s'il y a un lieu, si moi je chez moi, c'est dans cette tragédie-là. Bon, ça peut paraître un peu abstrait, mais je vois pas un autre. Ça veut dire c'est là où j'appartiens, c'est parce que c'est là où j'ai le plus souffert, mais aussi où j'ai le plus compris. Et bien sûr, maintenant que 13 ans sont passés depuis, où j'ai aussi accepté peut-être beaucoup de choses que je n'aurais pas pu même approcher avant. Donc, je ne sais pas, c'était la recherche de cette tragédie-là. Qu'est-ce que je peux dire autrement? Mais on peut toujours espérer que peut-être ça pourra être autre chose, mais au point où je suis maintenant, je ne le vois pas autrement, je ne peux pas l'expliquer autrement. Peut-être que, et j'espère que ce n'est pas une explication, mais enfin, tu seras le juge.
Ben je vais simplement dire que ta mère est morte sur la route dans un accident de voiture où justement elle n'est pas morte chez elle, elle est morte entre deux villes. Alors elle était partie passer Pâques avec sa famille, hein, récemment arrivée aux États-Unis, et puis en revenant à Calgary où elle habitait, elle est morte justement pas chez elle, alors que cette femme qui, bon, si on lit Interruption définitive, cette femme aurait dû mourir chez elle, ou bon, chez elle, que ce soit en Roumanie ou au moins à Calgary, là où elle avait fait un second chez soi. C'était une femme aussi comme toi, très domestique. C'est assez étonnant. Et ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est deux temps d'élaboration, c'est-à-dire un temps très long, qui commence peut-être en 84, mais donc bien avant la mort de ta mère, qui est morte il y a 13 ans, comme tu viens de le dire, un temps où tu écrivais tes rêves, et qui finalement, tu as raison, je pense qu'il faut le voir comme ça, pas seulement que ça a empêché d'écrire ce livre, mais que c'est un temps de préparation, c'est un temps d'élaboration, et puis d'un seul coup, ce récit, Interruption définitive, que tu écris très vite alors que tu es en analyse et qui peut s'écrire peut-être très vite, d'autant plus qu'il y a eu tous ces cahiers préparatoires qui, bon, d'un côté peut-être l'empêchent, mais peut-être aussi l'ont amené à être dans cette forme-là. Parce que si dans tes cahiers de rêve, il y a qui ne sont pas publiés, il y a quelque chose d'inachevé, parce que justement, peut-être pas montré ou montrable à tout le monde. Dans Interruption définitive, il y a une forme qui est quand même très achevée et avec laquelle tu travailles et qui peut peut-être te donner un peu de. Bon, je ne sais pas. Qui est une maison. Oui, qui est une maison, qui est un lieu que tu peux habiter. Ce livre est un lieu où ta parole a pu habiter. Toi qui avais une parole assez errante, en fait, avec ces cahiers depuis ton arrivée ou quelques années après ton arrivée de Roumanie. Mais je voudrais peut-être aussi. Est-ce que, en t'écoutant, est-ce que l'idéal, ça serait de ne plus rêver? Est-ce que tu penses que peut-être. Ne plus rêver, ça serait quelque chose qui te ferait du bien. Mais pas plus rêver parce qu'il y aurait un tel poids que tu n'aurais plus le droit de rêver ou que bon, tu te réveillerais très très vite le matin et tu aurais plus possibilité de te rappeler de tes rêves. Mais ne plus rêver parce que peut-être le rêve, me semble-t-il, quand même chez toi, est porteur de quelque chose de lourd.
Enfin, le rêve, c'est très saturnien. Je ne pense pas que je puisse ne plus rêver, puisque je sens que je suis placée sous ce signe, il y a quand même quelque part, malgré tout, malgré les apparences. Mais ce qui m'arrive maintenant est. Et peut-être ce que j'essaie de faire, en fait, Par exemple, si je rêve, je vais en analyse. Le rêve va occuper. Je vais prendre du rêve une séquence. Je sais maintenant quelle est la partie qui compte, disons, pour aujourd'hui, pour le moment, n'est-ce pas? Je vais prendre une séquence. J'ai une façon maintenant de. D'une certaine manière d'abréger le rêve. Il est encore important, je l'écoute, je suis toujours là, je suis fâchée si je ne me rappelle pas les rêves, mais je me les rappelle, je les regarde le matin, je me dis que cela vaut la peine d'en parler aujourd'hui ou pas, parce que souvent, il y a des choses qui arrivent dans ma vie très banales, je t'assure, ou très ennuyeuses, ou très des choses très mécaniques, c'est le travail, et puis dont je dois parler plus parce que je suis aux prises avec ça, et j'aimerais être capable d'arriver à faire, peut-être que voilà, c'est ça mon utopie, d'arriver à faire avec les difficultés de ma vie réelle ce que je suis à un certain degré arrivé à faire de ma vie de rêve. Le jour venait où je pouvais voir ce qui est à moi dans cette vie de tous les jours, dans les difficultés de tous les jours, et comment je peux vivre avec ça, tout en sachant que mon rêve, ça va se répéter dans quelques jours, et j'aimerais approcher ça d'une façon meilleure dans quelques jours qu'aujourd'hui, ou même s'il y aura des rechutes, ainsi de suite. Mais donc, tu vois, je vais dire que peut-être le traitement du rêve dans mon cas, tel qu'il m'est venu, parce que c'était pas conscient, est pour moi un modèle de comment je pourrais traiter aussi les difficultés de ma vie de tous les jours. Je pense que c'est une grande ambition, mais je serais très contente si j'arrivais à faire ça. Donc, c'est une certaine façon avoir cette capacité de. Parce qu'il ne s'agira plus de transcrire, mais de reconnaître les situations et de savoir comment s'y prendre. Comme dans le rêve, parfois, on arrive à s'y prendre mieux quand on a fait le rêve la énième fois que quand on l'a fait la première fois. Tu vois?
Donc le rêve a été et un apprentissage de l'écriture, mais aussi un apprentissage de comment vivre ou de comment, qu'est-ce que je fais avec le rêve maintenant, ça serait qu'est-ce que je fais avec ma vie, les détails de ma vie, les petites choses, et pour essayer de faire cela, je dois prendre comme modèle ce que je faisais des rêves. Mais en même temps, ça déplace la place du rêve. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire si le rêve t'a fourni un modèle d'interprétation ou un modèle de mode d'emploi, hein, bon, mais sans qu'on sache exact, sans que ça soit simplement collé comme ça sur la vie, quelque chose. Mais en même temps, le rêve, lui, sa place ou sa forme a un petit peu été laissée de côté ou doit être laissée de côté dans ta vie. Mais tout en envahissant tout ton monde, hein, dans sa façon d'être compris. Mais c'est quelque chose que peut-être j'ai beaucoup senti dans les dernières années, comment tu t'éloignais d'une certaine façon de cette emprise du rêve sur toi. Et pourtant, tu vas pas te changer, c'est-à-dire que tu pourras pas ne pas être dans ce rapport au rêve, mais je pense que le rêve n'a plus la même emprise qu'il avait sur toi.
Non, peut-être que il y aura encore des rêves prophétiques que j'aurai, même si c'est vrai que je ne m'y intéresse pas. Mais tu vois, ça a à voir avec ce que j'ai dit plus tôt. Quand j'étais jeune,
Je savais que je pouvais voir quelque chose dans les rêves. Je pouvais savoir, et cela avait une dimension prémonitoire. Je vais dire que maintenant, cela m'intéresse beaucoup moins. Autrement dit, je ne veux pas savoir ce qui est à venir. Parce que je ne pense pas que ça va m'aider. Hein, de quelque manière que ce soit, tu vois, je ne cherche plus à deviner, même si je peux, ça marche souvent et je peux reconnaître les signes d'une certaine clairvoyance que j'ai pu avoir en fait il y a des années, comme ce cahier de rêve où j'ai pu voir comment ça allait se passer, la mort de mon père, ça s'est passé comme ça. Et la maison dilapidée, j'ai dû la défaire complètement dans 3 jours. Enfin, c'était vraiment, ça avait été prédit dans le rêve. Ce qui a été important néanmoins pour moi, c'est que j'ai vu la distance entre savoir que cela allait m'arriver et le travail que ça m'a pris pour vivre ça. Ça veut dire, ce savoir était, mais c'est enfin, c'est un peu banal, nous savons que ça ne nous aide donc une façon de savoir ce qui va nous tomber dessus. C'est depuis l'Antiquité qu'on sait que ce genre de prémonition ne nous aide pas. Nous ne pouvons pas nécessairement éviter de vivre ça. Et savoir qu'on va le vivre ne nous aide pas à le vivre comme. Il faut, entre guillemets, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Mais donc, au lieu de chercher à savoir ce qui va m'arriver, possiblement, j'essaie de être d'une certaine façon aussi malléable que possible, aussi, je vais dire ouverte, mais je ne sais pas comment le dire autrement tout juste maintenant, pour que le coup ne soit pas trop dur. Mais c'est oui, aussi disponible pour que le coup, quand il viendra, ne soit pas trop dur. Que j'ai des manières de. Mais bon, j'ai aussi une expérience, tu vois. De comment on s'y prend, comment on fait pour faire un deuil, réussir un deuil. Enfin, c'est un peu une contradiction dans les termes, mais c'est très imparfaitement dit encore une fois, puisqu'on ne le réussit pas, on le subit, on en sort pas mal délabré. On est là à se dire ça va pas complètement m'atterrer. C'est ou j'espère que ça ne va pas complètement m'atterrer. Alors que le rêve peut être extrêmement catastrophique, non? Oui.
Mais c'est ce que tu disais au début, tu disais que l'horreur du rêve,
Oui.
tu ne peux pas la transcrire.
Oui.
Alors que, étonnamment, dans la vie, il y a quelque chose de l'horreur du rêve, même dans les pires horreurs, de l'horreur prémonitoire du rêve qui s'estompe, qui se domestique, qui s'apprivoise, alors que dans le rêve, on a l'impression. Ça dépend aussi des gens, des types de rêves, mais beaucoup de gens ont l'impression qu'il y a quelque chose d'une brutalité du monde ou de la vie ou de. Bon, il y a, tout est permis dans le rêve. Même s'il y a une censure, tout arrive quand même sous le. Même quand il y a la censure, il y a un sentiment parfois qui est insoutenable, hein, qui on ne peut pas traduire. Je ne sais pas, j'ai envie de te demander, et puis peut-être sans commenter après, mais depuis une semaine que Félix, donc ton chien, est mort, as-tu rêvé? As-tu rêvé? Et est-ce que tu penses qu'il y avait des liens? Est-ce que les rêves ou la nuit t'ont aidé dans ce dans cette absence que tu as vécue. En plus, c'est assez étonnant parce que souvent rêver de des êtres qui sont morts, on ne les voit pas, mais enfin, pour moi, on entend certaines de leurs paroles. Hein? Alors que le chien, c'est plutôt de l'ordre peut-être de la présence. Ou comment, je ne veux pas dire comment rêver d'un chien mort, mais quand même, il y a une question là, parce que ce n'est plus du tout de la même façon. Il ne peut plus s'exprimer de la même façon. Peut-être si tu as quelque chose à... Ou si tu ne veux pas, on va s'arrêter là, mais...
Enfin, c'est pas, tu peux couper. Ah, je rêvais, j'étais, bien sûr, j'étais lui. Et donc, tu sais qu'à la fin, Félix avait perdu le sens de ses fonctions. Et donc, j'avais perdu ça aussi et j'avais une honte horrible devant le monde qui était autour de moi. J'étais entourée par plein de monde qui savait qui j'étais, comment, et c'était probablement des étudiants, parce que bien sûr, c'est ceux devant qui nous sommes les plus redevables. Et j'ai essayé de disparaître, mais je ne pouvais pas disparaître. Enfin, j'ai essayé de disparaître comme ça. Et puis, je me suis réveillée, je me suis dit, mon Dieu, comment il a pu souffrir de ne pas pouvoir contrôler ses fonctions, parce que je sais que c'était vrai. Mais j'ai dû le vivre moi-même, tu vois, dans le rêve. Et je me suis dit, je me dis ça tout le temps, mais je me suis dit, bon, c'était bien le moment pour lui de s'en aller, et c'est bien le moment pour moi de comprendre, et je le comprends, et je l'accepte. C'était vraiment devenir chien. C'était ça mon rêve.
Ben, je crois qu'Angela, on va s'arrêter là. Je vais te remercier en disant ton nom de famille que je dis peu souvent. Alors, je te remercie, Angela Cosea, d'avoir partagé avec moi un petit peu de tes rêves ou de ce qui reste de tes rêves. Merci.
Bon, on a bien fait, non?